téléphone, avec l'aimable autorisation de Monsieur Maurice Druon, présente. Quand un roi perd la France, 7e et dernier épisode des Rois maudits.
Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les médiocres qui provoquent les tragédies. Au début du XIVe siècle, la France est le plus puissant, le plus peuplé, le plus actif, le plus riche des royaumes chrétiens. Celui dont les interventions sont redoutées, les arbitrages respectés, la protection recherchée. Et l'on peut penser que s'ouvre pour l'Europe un siècle français. Qu'est-ce donc qui fait, 40 ans après, que cette même France est écrasée sur les champs de bataille par une nation 5 fois moins nombreuse, que sa noblesse se partage en factions, que sa bourgeoisie se révolte, que son peuple succombe sous l'excès de l'impôt, que ses provinces se détachent les unes des autres, que des bandes de routiers s'y livrent aux ravages et aux crimes, que l'autorité y est bafouée, la monnaie dégradée, le commerce paralysé, la misère et l'insécurité partout installées. Pourquoi cet écroulement? Qu'est-ce donc qui a retourné le destin? C'est la médiocrité. La médiocrité de quelques rois, leur infatuation vaniteuse, leur légèreté aux affaires, leur inaptitude à bien s'entourer, leur nonchalance, leur présomption, leur incapacité à concevoir de grands desseins ou seulement à poursuivre ceux conçus avant eux. Rien ne s'accomplit de grand dans l'ordre politique et rien ne dure sans la présence d'hommes dont le génie, le caractère, la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les énergies d'un peuple. Tout se défait dès lors que des personnages insuffisants se succèdent au sommet de l'État. L'unité se dissout quand la grandeur s'effondre. La France, c'est une idée qui épouse l'histoire, une idée volontaire qui, à partir de l'an 1000, habite une famille régnante et qui se transmet si opiniâtrement de père à fils que la primogéniture dans la branche aînée devient rapidement une légitimité suffisante. La chance, certes, y eut sa part, comme si le destin voulait favoriser, à travers une dynastie robuste, cette nation naissante. De l'élection du premier Capétien à la mort de Philippe le Bel, 11 rois seulement, en 3 siècles et quart, et chacun laissant un héritier mâle. Or, tous ces souverains ne furent pas des aigles, mais presque toujours, à l'incapable ou à l'infortuné, succède immédiatement, comme par une grâce du ciel, un monarque de haute stature. Ou bien un grand ministre gouverne au lieu et place d'un prince défaillant. La toute jeune France manque de périr dans les mains de Philippe Ier, homme de petits vices et de vaste incompétence. Survient alors le gros Louis VI, l'infatigable, qui trouve à son avènement un pouvoir menacé à 5 lieues de Paris et le laisse à sa mort restauré ou établi jusqu'aux Pyrénées. L'incertain, l'inconséquent Louis VII engage le royaume dans les désastreuses aventures d'outre-mer, mais l'abbé Sugère maintient, au nom du monarque, la cohésion et l'activité du pays. Et puis, la chance de la France, chance répétitive, c'est d'avoir ensuite, réparti entre la fin du XIIe siècle et le début du XIVe, 3 souverains de génie ou d'exception, chacun servi par une assez longue durée au trône, 43 ans, 41 ans, 29 ans de règne, pour que son dessein principal devienne irréversible. 3 hommes de nature et de vertu bien différentes, mais tous 3 très au-dessus du commun des rois. Philippe Auguste, forgeron de l'histoire, commence, autour et au-delà des possessions royales, à sceller réellement l'unité de la patrie. Saint Louis, illuminé par la piété, commence d'établir autour de la justice royale l'unité du droit. Philippe le Bel, gouvernant supérieur, commence d'imposer autour de l'administration royale l'unité de l'État. Aucun n'eut pour souci premier de plaire, mais celui d'être agissant et efficace. Chacun dut avaler l'amer breuvage de l'impopularité, mais ils furent plus regrettés après leur mort qu'ils n'avaient été de leur vivant décriés, moqués ou haïs. Et surtout, ce qu'ils avaient voulu se mit à exister. Une patrie, une justice, un État, les fondements définitifs d'une nation. La France, avec ses 3 suprêmes artisans de l'idée française, était sortie du temps des virtualités. Consciente de soi, elle s'affirmait dans le monde occidental comme une réalité indiscutable et rapidement prééminente. 22 millions d'habitants, des frontières bien gardées, une armée rapidement mobilisable, des féodaux maintenus dans l'obéissance, des circonscriptions administratives assez exactement contrôlées, des routes sûres, un commerce actif. Quel autre pays chrétien peut alors se comparer à la France, et lequel ne l'envie pas? Le peuple se plaint, certes, de sentir sur lui une main qu'il juge trop ferme. Il gémira bien plus quand il sera livré à des mains trop molles ou trop folles. Avec la mort de Philippe le Bel, soudain c'est la brisure, la longue chance successorale est épuisée. Les trois fils du roi de fer défilent au trône sans laisser de descendance mâle. Nous avons compté précédemment les drames que connut alors la cour de France autour d'une couronne mise et remise aux enchères des ambitions. 4 rois au tombeau en l'espace de 14 ans. Il y a de quoi consterner les imaginations. La France n'était pas habituée de courir si souvent à Reims. Le tronc de l'arbre capétien est comme foudroyé. Et ce n'est pas de voir la couronne glisser à la branche Valois, la branche agitée, qui va rassurer personne. Prince ostentatoire, irréfléchi, d'une présomption énorme, tout en gestes et sans profondeur, les Valois s'imaginent qu'il leur suffit de sourire pour que le royaume soit heureux. Leurs devanciers confondaient leur personne avec la France, eux confondent la France avec l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Après la malédiction des trépas rapides, la malédiction de la médiocrité. Le premier Valois, Philippe VI, qu'on appelle le roi trouvé, autrement dit le parvenu, n'a pas su en 10 ans bien assurer son pouvoir, puisque c'est au bout de ce temps que son cousin germain, Édouard III d'Angleterre, se décide à rouvrir la querelle dynastique. Il se déclare en droit roi de France, ce qui lui permet de soutenir en Flandre, en Bretagne, en Saintonge, en Aquitaine, tous ceux, villes ou seigneurs, qui ont à se plaindre du nouveau règne. En face d'un plus efficace monarque, l'Anglais eut sans doute continué d'hésiter. Pas davantage, Philippe de Valois n'a su repousser les périls. Sa flotte est détruite à l'Écluse par la faute d'un amiral choisi sans doute pour sa méconnaissance de la mer. Et lui-même, le roi, erre à travers champs au soir de Crécy pour avoir laissé ses troupes à cheval chargées par-dessus leur propre infanterie. Quand Philippe le Bel instituait des impôts dont on lui faisait grief, c'était afin de mettre la France en état de défense. Quand Philippe de Valois exige des taxes plus lourdes encore, c'est pour payer le prix de ses défaites. Dans les 5 dernières années de son règne, le cours des monnaies sera modifié 160 fois. L'argent perdra les 3/4 de sa valeur. Les denrées, vainement taxées, atteignent des prix vertigineux. Une inflation sans précédent rend les villes grondantes. Lorsque les ailes du malheur tournent au-dessus d'un pays, tout s'en mêle, et les calamités naturelles s'ajoutent aux erreurs des hommes. La peste, la grande peste, partie du fond de l'Asie, frappe la France plus durement qu'aucune région d'Europe. Les rues des villes sont des mouroirs, les faubourgs des charniers. Ici, 1/4 de la population, ailleurs 1/3 succombe. Des villages entiers disparaissent, dont il ne restera parmi les friches que des masures ouvertes au vent. Philippe de Valois avait un fils que la peste, hélas, épargna. Il restait à la France quelques degrés à descendre dans la ruine et la détresse. Ce sera l'œuvre de celui-là, Jean II, dit par erreur le Bon. Cette lignée de médiocres fut tout près de faire écarter, dès le Moyen-Âge, un système qui confiait à la nature de produire au sein d'une même famille le détenteur du pouvoir souverain. Mais les peuples sont-ils plus souvent gagnants à la loterie des urnes qu'à celle des chromosomes? Les foules, les assemblées, même les collèges restreints, ne se trompent pas moins que la nature. Et la Providence, de toute manière, est avare de grandeur.